Il est 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous allez écouter le bulletin européen.
Hello, hola, hallo, calimera. Bienvenue sur le bulletin européen, une émission faite par l'association Eurosorbonne, diffusée sur Radio Campus Paris 93.9 FM et à écouter un mardi sur quatre à 18h jusqu'au 11 juin. Je suis Eliette et avec Arwen, Eva et Tieno, nous vous parlons une fois par mois jusqu'aux élections européennes pour préparer votre bulletin européen. Après un premier épisode où nous nous sommes demandé pourquoi aller voter, aujourd'hui, on va chercher à comprendre quels enjeux les élections ont pour l'économie européenne et l'Europe sociale. Pour cela, on écoutera d'abord Arwen et Tieno.
Salut Eliette.
Salut Eliette.
Salut, comment ça va ?
Bah, super bien, trop content de faire cette nouvelle émission.
Vous avez recueilli les avis des Français dans un micro-trottoir, c'est ça ?
Ouais, on est parti leur poser des questions sur ce qu'ils pensaient de l'Europe et comment ils la voyaient au niveau économie et social.
Très bien. Et après ça, vous entretiendrez avec Madame Violaine Delteil. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes enseignante et maîtresse de conférences en sciences économiques et sociales à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris. Après ça, je vous proposerai une nouvelle petite pépite musicale dénichée sur le site Europavox.
Mais qu'est-ce que tu vas nous faire écouter ?
Alors aujourd'hui, je vous parle du groupe Freekind, qui est formé par une Croate et une Slovène. Enfin, on écoutera Eva, qui va nous raconter l'actualité pour être sûr qu'on n'ait rien loupé.
Voilà, c'est ça.
Et si je te dis Europe ou Union Européenne, Tieno, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Comme ça, je dirais l'euro, l'espace Schengen, des choses comme ça.
En soi, tu n'as pas tort, hein. Mais tu sais que l'Union Européenne est aussi un acteur de politique sociale.
Tu me l'apprends.
Eh bah écoute, tu es loin d'être le seul. Et ça te dit qu'on aille demander aux Français ce qu'ils pensent de ça ?
Vas-y, carrément, on prend nos micros, on va sur le trottoir, on va faire un micro-trottoir.
Eh ben allez, c'est parti.
Qu'est-ce qui te vient en premier comme mot quand, si je te parle d'Union Européenne ?
Alors ça m'évoque le néolibéralisme.
Quand on me dit Union Européenne ou Europe, la première chose à laquelle je pense c'est l'environnement, parce que c'est une instance qui est communautaire du coup, et qui régit beaucoup tout ce qui est la thématique environnementale, que ça soit protection de la biodiversité, des consommateurs, de la réglementation vis-à-vis des entreprises ou des polluants.
Moi je pense plus à l'immigration et aux lois qui sont faites pour justement restreindre l'arrivée des migrants. Après sinon je pense aussi aux problèmes avec l'agriculture et les différentes manifestations.
Est-ce que tu penses que l'Union européenne est plus centrée sur l'économie ou les politiques sociales ?
Économie à fond, parce que déjà, historiquement, elle a été construite à partir de thématiques industrielles et économiques, et parce que tout ce qui touche à les thématiques sociales ne font pas partie de ses prérogatives ou de ses thématiques principales.
C'est une Europe économique, hein. C'est l'Europe du commerce. Hein.
Et enfin, est-ce que tu aurais une idée d'une politique sociale que tu aimerais que l'Union européenne porte ?
Il y en a beaucoup puisqu'elle agit très peu sur tout ce qui touche à ça. Mais je dirais qu'à l'heure actuelle et en habitant à Paris, tout ce qui touche au sans-abrisme, au fait de reloger les personnes.
C'est pas forcément une idée de politique sociale, mais je pense que l'UE devrait faire en sorte que certaines politiques soient beaucoup plus uniformes et coordonnées, notamment dans le domaine du handicap ou même des politiques migratoires, parce qu'il y a même climatiques, environnementales, parce qu'il y a de gros écarts.
Je pense qu'il y a une politique des salaires à mettre en place et une politique fiscale et sociale côté salaire. Fiscale, c'est pas social, mais voilà.
On pourrait généraliser la sécurité sociale, par exemple, comme elle est en France. Enfin, comme elle était.
Comme vous avez pu l'entendre, les personnes interrogées voient surtout l'Union européenne sous un prisme économique, mais très peu d'un point de vue social. Une vision de l'Union européenne qui est parfois même assez péjorative. Ce qui remonte beaucoup aussi chez nos interrogés, eh bien, c'est la volonté d'avoir plus d'action en termes d'immigration, mais aussi en ce qui concerne l'environnement ou la santé.
Donc aujourd'hui, pour notre entretien sur la thématique de l'Europe économique et sociale, on a le plaisir de recevoir donc Madame Violaine Deltey, maîtresse de conférences en socio-économie à l'Université Sorbonne Nouvelle, avec qui on va pouvoir échanger quelques questions. Bonjour.
Bonjour.
Et
bonjour.
Bienvenue du coup dans le bulletin européen. Donc on va commencer par une petite question avec laquelle on aimerait dresser un petit bilan de la construction européenne telle qu'elle a été jusque-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelle mesure jusque-là le projet européen a été économique et social ? Est-ce que ça a été au même niveau ? Est-ce qu'il y a eu plutôt un déséquilibre, plus d'économie, plus de social ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là ?
Dans les textes, dès le départ, dans le traité de Rome, on évoquait le terme d'égalité dans le progrès. Donc, dans les textes, il était clair que l'Europe économique qui allait se construire, le marché commun qui allait se construire, était un marché commun reposant sur, on va dire, des normes sociales plutôt progressistes et répondant en réalité aux valeurs de l'Union européenne en la matière, en tout cas des pays fondateurs. Donc dans les textes, l'Europe économique qui se profilait était une Europe qui était aussi portée par un enjeu d'égalité dans le progrès et par un enjeu finalement social. Simplement, dans les faits, on a surtout construit un marché commun et on a pensé le social un petit peu comme venant en renfort en fait de ce marché commun, puisqu'il s'agissait de créer un grand marché. Il fallait aussi créer, créer un marché du travail européen. Et pour construire ce marché, il fallait faciliter la mobilité des travailleurs entre les régions européennes, entre les régions à fort chômage vers les régions à faible chômage et en tension sur le marché du travail notamment, mais aussi plus globalement favoriser cette mobilité des travailleurs. Donc le social a été pensé, je dirais, de manière très fonctionnaliste au départ pour... favoriser la transférabilité des droits sociaux pour les travailleurs travaillant dans un pays, mais vivant peut-être dans un autre, ou travaillant à un moment dans un pays et puis ensuite prenant leur retraite dans un autre. Donc la portabilité ou la transférabilité des droits à la retraite notamment, et puis ensuite d'autres droits sociaux, ont été pensés très, très rapidement, et des règlements ont existé dans les années 70 en la matière. Ensuite, vous avez eu dès les années 50, la mise en place d'un fonds, le Fonds social européen, qui avait vocation à accompagner la reconversion professionnelle des travailleurs qui allaient se retrouver au chômage du fait de la fermeture des usines de charbon. Donc voilà, les premiers linéaments du social au niveau de la communauté européenne ont été vraiment pensés de manière fonctionnaliste, utilitariste, pour répondre à la construction de ce grand marché. Ensuite, il y a eu donc les années 80, l'ère de l'or, où à la fois on a eu réellement du progrès social, des engagements en faveur du progrès social, avec une vraie portée, une vraie visée social-démocrate qui s'invitait à la tête de la Commission avec Jacques Delors, et en même temps une visée aussi fonctionnaliste, dans la mesure où finalement ce social, les avancées sociales qui ont été garanties par Jacques Delors, notamment aux partenaires sociaux et notamment aux syndicats à l'époque dans les années 80, visaient aussi à faire accepter en fait aux forces sociales l'idée d'une union, d'un marché unique, et l'idée donc d'une union économique et monétaire. Donc c'était le social, mais aussi au service, non pas de l'accompagnement, je dirais, en termes de politique publique de l'économique, mais c'était plutôt le social comme un outil de légitimation aussi de ce projet européen très économique. On peut dire que cette articulation où le social vient en renfort apporter de la légitimité politique au projet européen, on la retrouve aussi juste après la crise de 2009, enfin juste après, quelques années après la crise de 2009, où devant la crise démocratique qui devient de plus en plus béante au sein de l'Union européenne, devant la montée des forces eurosceptiques dans une grande partie d'États membres, la commission Juncker décide d'essayer de redorer un petit peu le blason de l'Europe et dans sa dimension de progrès social en introduisant le projet d'un socle européen des droits sociaux, qui est en fait une coquille, je ne dirais pas une coquille vide, mais qui est simplement un habillage du droit social communautaire et des stratégies sociales de l'Union européenne qui existaient déjà. Donc c'est juste un habillage, mais qui vise à légitimer le projet européen.
D'accord, merci très pour bien. Cette première réponse fort instructive. Est-ce que Arwen, tu as une question à poser ?
Oui, effectivement, j'ai une question. Alors, est-ce que s'il y en a une, à partir de quel moment on peut parler d'une politique sociale européenne ?
C'est difficile de dire jusqu'à aujourd'hui qu'il existe une politique sociale européenne. Le social fait partie des compétences partagées, comme l'environnement, l'énergie, le transport ou d'autres, fait partie des compétences partagées entre l'Union européenne et les États membres. L'Union européenne intervient sur certains volets du social en complément des États membres. Exemple, il y a un droit social communautaire qui vise à harmoniser à minima la législation sur le droit du travail, de manière à assurer, par exemple, qu'en Europe, dans l'Union européenne, on ne travaille pas plus de 45 heures par semaine. Dans l'Union européenne, les travailleurs qui sont en CDD ou en intérim aient les mêmes droits que les travailleurs qui sont en CDI ou encore qu'il n'y ait pas de... Voilà, que dans tous les États membres, on mette en place des politiques de lutte contre les discriminations au travail.
Et pour rebondir sur ce que vous avez dit en expliquant que le social était une compétence partagée, qu'est-ce qui explique selon vous que ce domaine donc, du social n'ait pas été plus pris en compte par la communauté, n'a pas été plus communautarisé? Est-ce que c'est des réticences de certains États membres? Est-ce que c'est parce que ça dirait que le projet européen est de plus en plus politique et que ça a poussé certains États à s'y opposer?
Oui, alors la question est complexe, mais globalement, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, juste avant, le projet était plutôt un projet économique, porté par des intérêts économiques, porté par des gouvernements qui, globalement, avaient plutôt envie de construire ensemble une Europe économique et de garder chacun jalousement, en fait, leur propre politique sociale, donc de ne pas communautariser la politique sociale, de ne pas transférer de compétences trop importantes à l'Union européenne en matière de social. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que le social, c'est une dimension, finalement, renvoie à une dimension très culturelle de l'organisation des sociétés, et que le social est extrêmement différent d'un pays à l'autre. En réalité, quand vous regardez les systèmes sociaux, les modèles sociaux d'un pays à l'autre, vous avez des constructions sociales qui sont extrêmement différentes dans leurs principes, dans leur mode d'organisation. Donc il serait très complexe en réalité de communautariser, d'uniformiser, d'harmoniser en fait les systèmes sociaux. Donc il y a eu une résistance importante des États membres, résistance liée aussi à des intérêts économiques bien compris, hein, certains États n'ayant absolument pas le souhait de se voir imposer des normes plus contraignantes, plus progressistes peut-être que d'autres États. On le voit bien aujourd'hui avec les nouveaux États membres, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie, la Slovaquie, à raison, je dirais, ne peuvent pas se permettre le rêve de souhaiter des niveaux de salaire ou des réglementations du travail à hauteur de celles qui existent en France ou en Allemagne, parce qu'elles perdraient toute compétitivité, prix par rapport à leurs voisins qui sont leurs partenaires, mais aussi leurs concurrents. Donc le social, c'est aussi une dimension, harmoniser le social dans un contexte où les pays sont extrêmement différents sur le plan économique, conduirait à couler en fait les pays les plus faibles économiquement. Donc c'est en fait c'est pas du tout un projet pour l'instant, et c'est pourquoi d'ailleurs les directives, le droit social communautaire qui est en train de se mettre, qui se met en place difficilement, douloureusement et avec pas mal de déceptions pour ceux qui portent ces avancées sociales, en fait, aboutit souvent à de très maigres garanties sociales. C'est-à-dire que si vous regardez les dernières directives, la directive sur le salaire minimum européen, bon, on pourra en reparler en détail si on a le temps, la directive sur les travailleurs des plateformes, la directive qui viserait à protéger davantage les travailleurs des plateformes qui sont aujourd'hui largement dans des zones grises de
du droit du travail.
Voilà, les travailleurs des plateformes qui sont pour beaucoup extrêmement dépendants économiquement de leur donneur d'ordre, mais qui ne disposent pas du statut de salariat et donc des droits et garanties du salariat. On voit aujourd'hui, on a vu les semaines passées, en fait, la présidence belge de l'Union européenne essayer d'aboutir à la conclusion d'un accord sur la directive, d'un accord entre États membres sur cette directive, qui aboutit finalement à très très peu de garanties par rapport à ce qui avait été proposé par la Commission. Donc en fait, on est dans un contexte particulier où la Commission porte des projets qui sont parfois relativement sociaux si on les compare aux ambitions des États membres. Et ce sont les États membres qui ont tendance à torpiller ou faire capoter en fait certains projets d'avancée sociale au niveau européen. Donc il ne faut pas forcément s'en prendre à la Commission qui depuis le dernier mandat est peut-être plus sociale certainement que la précédente Commission Juncker. Hein, von der Leyen est plus sociale et plus orientée sur l'écologie que la précédente commission. Et pour beaucoup, finalement, les obstacles sont du côté des États membres qui freinent des cas de fer pour limiter en fait leurs contraintes sociales ou leurs contraintes économiques qui vont avec des avancées sociales. Autre exemple, la directive sur le congé parental. Elle a été largement, elle a été limitée dans sa réalisation, dans les avancées qu'elle porte, en partie par la France. Hein, la France fait partie des pays. On cite souvent les pays de l'Est, les pays d'Europe centrale et orientale, les nouveaux États membres comme les pays les plus réfractaires à des avancées sociales. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets, on peut pas la France n'est pas du tout à l'avant-poste d'un progrès social au niveau européen. Il y a énormément de pression exercée par notamment le ministère de l'économie et puis derrière des lobbies économiques et un gouvernement qui ne tranche pas sur ces sujets, en tout cas qui se laisse d'une certaine manière aussi capturer par ses intérêts économiques. Et qui porte en réalité dans ces négociations sur le droit social communautaire qui porte une vision extrêmement qui peut rester relativement libérale.
D'accord, très bien. Vous parlez justement de cette dimension assez fonctionnaliste de la politique sociale européenne, même s'il n'en existe pas vraiment. Mais qu'est-ce que l'Union européenne peut faire, notamment en termes d'emploi, de chômage ? Est-ce qu'elle s'est assez prononcée là-dessus ?
Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que l'emploi et le chômage sont fortement liés, en fait, à l'économique. Donc si l'Union européenne a la main sur la politique économique, ce qui est en partie le cas, en tout cas, elle a la main sur la politique monétaire pour les pays qui sont dans la zone euro, et elle a la main sur la surveillance macroéconomique et donc indirectement un petit peu sur la politique budgétaire des États membres, elle contrôle par ces deux politiques finalement beaucoup la situation, le niveau de la croissance et donc indirectement le niveau du chômage et de l'emploi. Donc ce levier, on va dire, les outils macroéconomiques sont entre les mains de l'Union européenne en large partie pour répondre à ces enjeux d'emploi et de chômage. Et regardez d'ailleurs l'Union européenne qui, jusqu'à la crise du Covid, n'avait pas actionné réellement de politique contracyclique, de politique économique contracyclique visant à inverser le cycle de dépression économique dans lequel étaient la plupart des États membres, l'a fait juste après le Covid, avec une politique de relance, un plan de relance de 750 milliards d'euros qui a contribué à soutenir la croissance comme cela n'avait jamais été fait auparavant. Donc il y a quand même un avant et un après Covid. Et il y a une politique contracyclique, pas tout à fait assumée de l'Union européenne, dans le sens où c'est une politique pragmatique, et je pense qu'on peut saluer ce pragmatisme nouveau de l'Union européenne. Cependant, c'est pour partie une politique qui n'est pas tout à fait conforme à l'orthodoxie budgétaire inscrite dans les traités, notamment dans le traité de stabilité et de croissance de l'Union européenne.
D'accord, je vois.
Peut-être une dernière question, en essayant de prendre un peu plus de hauteur et d'essayer de donner quelques événements sur les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce que vous avez repéré dans les débats, dans ce qu'on commence à voir, des programmes des candidats ou des projets des partis européens pour les prochaines élections, des éléments qui peuvent faire penser à des programmes ou des idées pour relancer ou prendre des initiatives en matière de sociale au niveau européen ?
Bonne question. Oui, bien sûr, certains partis politiques ont le projet de compléter le Green Deal en portant l'idée aujourd'hui d'un Green Social Deal, donc un pacte vert social. L'idée étant de compléter un pacte vert qui a du mal à se mettre en place. On le voit bien aujourd'hui, il est détricoté à la fois par l'Union européenne, par la pression des États membres, et détricoté aussi, ou en tout cas certaines de ces mesures sont détricotées ou contournées par les États membres eux-mêmes. Donc on est dans une phase de problématique par rapport à la possibilité de réalisation de ce pacte vert. Et donc, certains partis, effectivement, partant de ce diagnostic-là, estiment que la seule manière, finalement, de le rendre acceptable socialement et légitime politiquement, c'est de le compléter avec un volet social, un volet d'accompagnement de cette grande transition qui est en cours, ou qui pourrait l'être bien davantage, notamment sur le versant de la politique agricole commune, qui est encore très, très marquée par son historique, je dirais, et donc par son volet productiviste, exportateur et destructeur du vivant dans son ensemble, incluant d'ailleurs aussi les agriculteurs qui sont pour beaucoup en très mauvaise passe. On ne sait peut-être pas très souvent qu'un tiers des agriculteurs gagnent moins de 300 euros par semaine en travaillant au-delà justement des 45 heures hebdomadaires normalement imposées par la directive communautaire. Donc il y a vraiment des enjeux sociaux extrêmement forts dans le monde agricole que l'on sent très en colère aujourd'hui, et peut-être que cette idée effectivement d'un Green Social Deal, c'est peut-être c'est peut-être un début de réponse, et une réponse qui prendra en compte ce qui me semble absolument fondamental, c'est l'articulation entre les politiques. Parce que ce que l'on peut constater aujourd'hui, une des explications à la difficulté de l'Union européenne en matière de politique publique, C'est pour beaucoup, en fait, l'absence d'articulation cohérente entre les différentes politiques qui sont menées. Hein, d'un côté, on a peut-être le projet d'effectivement de faire transitionner un petit peu l'agriculture, mais de l'autre, on a une politique commerciale fondée sur le libre-échange à tout crin et fondée sur un objectif d'augmentation systématique des exportations de l'Union européenne et des importations de l'Union européenne, alors que tous les signaux sont là pour dire qu'effectivement, il serait beaucoup plus cohérent de limiter, en fait, et de peut-être de mettre des quotas pour limiter exportation et importation et essayer de construire une économie d'échange qui soit beaucoup plus construite, beaucoup plus territorialisée et construite dans des espaces un peu plus étroits que le monde entier.
Merci beaucoup pour ce temps, pour tous ces éléments qui étaient vraiment très intéressants.
Merci beaucoup à vous, merci pour cette initiative.
Je suis trop contente de te présenter FreeKind, la pépite du mois recommandée par EuropaVox, avec qui nous sommes en partenariat. FreeKind, c'est la rencontre entre la Croatie, avec la pianiste et chanteuse Sarah Esther Gridelj, la Slovénie, avec la batteuse Nina Korozak-Serkic, tout ça en Autriche, puisqu'elles se sont rencontrées dans la célèbre école de musique autrichienne Kunstuniversität Graz, qui est un point de rencontre de jeunes talents venus de tous les Balkans, et aussi le Royaume-Uni, puisqu'elles chantent en anglais. Sarah et Nina, c'est donc avant tout un duo musical très européen. En plus de ça, elles tirent leurs inspirations dans des genres très variés, puisqu'elles vont aussi bien dans la soul, dans le hip-hop, dans le jazzy rap. Et personnellement, ça m'a directement fait penser à des artistes que j'adore, comme Mac Miller, Anderson .Paak ou Kali Uchis. Elles sont lancées en 2019 avec le single I'm Gonna Live, qu'elles ont sorti et produit elles-mêmes. Je te mets un extrait tout de suite. I'm gonna live, I'm gonna breathe, under the deepest waters. I have the light, so I'm gonna fly through the darkest forest. I'm gonna live. Et après, il n'aura pas fallu longtemps pour se retrouver au devant de la scène internationale grâce à leur performance à plein de festivals, dont celui d'EuropaVox. Rattling, you hear it, take the fruit and eat it. It tells you that you need it. There's no time to speed it up on the clock. See, you're stuck, it's what you got with the block for you to live in. The hole you're digging, I'm not digging. You dig? Easy on the substance, Mr. Trying to make it big. Easy on the short, but Mr. Trying to get the gig. And the old that monster used to break like a twig. Ask yourself if it actually that's wrong. J'ai eu le temps de les écouter à fond ce matin quand j'étais bloquée dans le RER et leurs textes font vraiment effet. Elles vont parler d'amour, d'espoir, de méditation aussi, de comment se sentir bien avec soi-même, de réussir à faire les choses qu'on aime. Enfin vraiment, c'est un message hyper positif, plein de good vibes. Je te jure que même dans le RER, ça a réussi à me détendre. Je te passe un petit extrait de Good Vibrations de leur dernier album Since Always and Forever. Good vibrations, happy ending stories, parents that appreciate life and all its glory, pass it to the children from generation to generation, pave the road from incarceration to liberation of mind, we were born to fly, we can be more than survive till you die, your spirit is immortal, open the portal, be patient, nothing happens with the first try, we need patience, pursuing spot the evasion, we need practice, on the daily like it's the paper, need people. Ain't no change without your equals, the action, the start of a new ethos, no tricks, no gimmicks, teach your children to think with no limits, understand the system we're in, and the role in it, and the role with it, or the break free, find the holes in it, and see reality, and our purpose gets clearer, peace on earth nearer, fellow humans there are a new era, next time we talk to a child. En tout cas, moi je te conseille vraiment d'aller écouter, et aussi, note qu'elles seront en concert gratuit à Paris, le samedi 4 mai dans le cadre de la Journée de l'Europe, au parvis de l'Hôtel de Ville. Il y aura 3 concerts au total à partir de 19h, donc Pépite, un artiste français, FreeKind, dont je viens de te parler, et Love and Joy, un groupe ukrainien. En tout cas, moi j'y serai. I know you do too, so why don't we live in this world the way we do?
Campus Paris et vous écoutez le bulletin européen.
Après cette petite page musicale, Eva, tu vas nous parler des actus du mois, c'est ça ?
Eh oui, ces temps-ci, nous avons pu être le témoin d'actualités très intéressantes. Alors commençons d'abord par l'actualité internationale. En Espagne, l'unité nationale est quelque peu perturbée puisque le 14 mars dernier, le Parlement espagnol a voté une loi d'amnistie pour les indépendantistes catalans. Déjà en 2017, une tentative de sécession avait été déjouée par le gouvernement étatique. Rappelons-nous, un référendum avait été organisé illégalement par les activistes et le gouvernement régional catalan de Carles Puigdemont. Plus de 400 personnes avaient été poursuivies juridiquement. Au Portugal maintenant, le gouvernement de droite modérée a été investi mardi 2 avril. Après des élections législatives marquées par une très forte participation électorale et un score inédit du parti d'extrême droite Chega, AC en français, qui a remporté 18% des suffrages, le double de son score il y a 2 ans. Le gouvernement connaît une marge de manœuvre aussi réduite que sa majorité parlementaire. Le nouveau Premier ministre Luis Montenegro a cependant décidé de former un gouvernement minoritaire afin d'obtenir sa promesse de ne pas chercher le soutien du parti d'extrême droite. Parlons maintenant d'Europe sociale. On désire remettre au goût du jour les lois Aourou datant de 82 et instaurer un esprit de citoyenneté au sein des entreprises françaises. L'idée de base, elle était pourtant simple. Les améliorations nécessaires dans le travail sont proposées par les travailleurs eux-mêmes, sans passer par un intermédiaire comme un élu du personnel ou un délégué syndical. Mais le projet fut finalement abandonné puisque les entreprises voyaient l'exercice de ce droit pendant les heures rémunérées comme une perte de temps et de productivité et craignaient l'ouverture d'une boîte de Pandore pour plus de revendications. Économie, il y a des choses à dire sur le sujet. L'UE prévoit de limiter les importations agricoles ukrainiennes, une réponse aux revendications des agriculteurs européens qui, nous l'avions vu, accusaient l'Union européenne de concurrence déloyale dans son achat du blé ukrainien depuis le début de la guerre. Alors, un projet de loi a été proposé par les ambassadeurs des États membres. Bien évidemment, rien n'est encore réellement décidé puisque le projet de loi doit encore être accepté par les gouvernements nationaux ainsi que par le Parlement européen. Écologie, encore et toujours, un sujet qui nous concerne tous. Le gouvernement a présenté un plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des 2,1 millions de fonctionnaires de l'État. Les initiatives incluent la formation des agents, l'augmentation du télétravail, la réduction des déplacements des professionnels et l'interdiction d'acheter des produits en plastique à usage unique. Les associations environnementales ont salué cette initiative et soulignent l'importance de la mise en œuvre effective sur le terrain.
Voilà, c'était le Bulletin européen, une émission Eurosorbonne préparée par Arwen, Thieno, Eva, Théo et Elliot, avec l'aide de Radio Campus Paris. Merci encore à Madame Delteil d'avoir répondu nos questions. Cet épisode, comme tous les autres, est dispo en podcast sur Radio Campus Paris, Spotify et Apple Music. Et on se retrouve dans un mois. Et n'oubliez pas d'aller voter, sinon ça va barder là. Au revoir.
Salut.
Au revoir. Au revoir, à la prochaine.